Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Québec Oiseau, Nouveau Projet et Nature Sauvage. Au programme, le commandeur, le carouge à épaulettes, ce qui nous définit et affranchit le cheveu long. Bonne écoute.
Le commandeur, le carouge à épaulettes, un texte de Philippe Blin, paru dans Québec Oiseau, volume 32, numéro 3, printemps 2021. Quand le Québec engourdi parvient timidement à l'équinoxe de mars, l'un des premiers signes annonciateurs du printemps dans nos campagnes prend la forme d'un oiseau noir aux épaulettes rouges, perché insolemment sur un piquet de clôture et qui lance à la ronde son chant discordant. Ce premier migrateur s'est capté notre intérêt pour un temps, avant que les hordes de ses semblables ne fassent de leur présence tapageuse un spectacle trop banal pour retenir notre attention. Près d'un mois après l'arrivée des mâles, la migration des femelles se fera plus discrète et passera souvent inaperçu. Le carouge à épaulettes, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas toujours été cet oiseau surabondant et parfois trop familier qu'on rencontre partout. Il y a à peine plus d'un siècle, il était encore confiné aux marais de quenouilles, de carex et de sirpes, si bien que Charles Eusèbe Dionne, auteur des « Oiseaux de la province de Québec », écrivait à son sujet, en 1906, qu'il était commun à Montréal, mais plutôt rare dans la région de Québec et plus à l'est, au point même de souligner sa nidification à Saint-Michel-de-Bellechasse, au bord de la rivière Boyer. Avec le développement de l'agriculture moderne, l'espèce s'est graduellement répandue hors des marais pour s'établir au bord des fossés de drainage et même dans les champs. La généralisation de la culture du maïs dans les basses terres du Saint-Laurent, à partir de 1970, a fait exploser ses effectifs. Les aléas de la nomenclature. Très tôt, les habitants de la Nouvelle-France ont donné à cet oiseau le nom de « commandeur ». À la fin du XVIIIe siècle, le naturaliste français Buffon traite de cette espèce dans son Histoire naturelle des oiseaux. Il doit son nom de commandeur à la belle marque rouge qu'il a sur la partie antérieure de l'aile et qui semble avoir quelque rapport avec la marque d'un ordre de chevalerie. Par la suite, certains ouvrages européens ont désigné cet oiseau sous le nom de troupial commandeur. Commandeur est resté en usage dans nos campagnes jusqu'à tout récemment. C'est d'ailleurs sous ce nom que Claude Mélenchon présente l'espèce dans « Charmant voisin », ouvrage de vulgarisation très populaire, paru en 1940. Quant à Carouge, ce nom désignait traditionnellement les orioles dans les îles francophones des Antilles, comme en fait foi le Grand Larousse du 19e siècle. Par ailleurs, Ictéridée, nom donné à la famille à laquelle appartient le carouge, fait référence à la livrée jaune des orioles, en grec, ictéros égale jaune, alors même que les espèces les plus abondantes de la famille sont noires. Des mœurs dissolues, le carouge à épaulettes est très territorial. En arrivant dans ses terres, le mâle âgé reprend immédiatement possession de son ancien territoire. Il doit le défendre avant tout contre les jeunes mâles qui nichent pour la première fois et qui cherchent à s'approprier un territoire aux dépens de leurs prédécesseurs. Les femelles reviennent un mois plus tard et s'installent à plusieurs sur le territoire d'un mâle. Elles y construisent chacune un nid. Le mâle s'accouple avec chaque femelle de son domaine après lui avoir fait la cour. Pour courtiser la femelle, le mâle chante bruyamment et étale les ailes pour mettre ses épaulettes en évidence. Chez cette espèce, la polyandrie est variable et le harem peut compter parfois 5 et, exceptionnellement, jusqu'à 15 femelles. L'avantage des lieux semble compter pour les femelles. Elles préféreraient un mâle polygame qui lui assure un beau territoire à un mâle esseulé qui lui offre un territoire moins intéressant. Ce phénomène produit un excédent de mâles célibataires, compensé par le fait que les femelles se reproduisent dès l'âge d'un an, alors que les mâles, eux, doivent normalement attendre l'âge de 2 ans pour s'accoupler. La polygamie ne va pas à sens unique. Il est assez fréquent que les femelles aient des relations extra-conjugales avec les mâles des territoires voisins. Dans certains cas, cette pratique leur permet apparemment de gagner la protection d'un autre mâle et de pouvoir aller se nourrir sur son territoire. Certaines études ont révélé qu'environ la moitié des nids contenaient au moins un oisillon issu d'un père illégitime. Une fois les couvées établies, le mâle les protège férocement contre les prédateurs, réels ou imaginaires. C'est ainsi qu'un visiteur, passant trop près du nid, peut se faire attaquer par de bruyants vols en piqué. Pour autant, la prédation est réelle et près de la moitié des œufs et des oisillons peuvent être la proie des ratons laveurs, des mustélidés et des corvidés. Le mâle est particulièrement agressif envers la femelle du vacher à tête brune, qui réussit souvent à pondre dans le nid des carouges. Si les femelles couvent seules, alors que le mâle assure leur défense, les deux sexes participent à l'alimentation des petits et leur procurent les insectes dont ils ont besoin pour leur croissance. Il s'agit pour beaucoup d'odonates, libellules, dans les marais et de lépidoptères, papillons, en terrain plus sec. Dès la fin de l'été, les carouges se regroupent la nuit tombée en d'immenses dortoirs, comme le font les cuiscales et les étourneaux. Les mâles, les femelles et les jeunes occupent souvent des dortoirs séparés, généralement dans les marais. Cette pratique continue tout l'hiver aux États-Unis dans des dortoirs dont certains peuvent compter des millions d'individus. Des effectifs en baisse? Les effectifs nord-américains du carouge à épaulettes semblent avoir culminé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Depuis, ils auraient quelque peu diminué. La comparaison des deux atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional révèle que le carouge a déserté beaucoup de sites de nidification isolés dans les tourbières et les marais de la forêt boréale. Si cette espèce s'est, dans un premier temps, multipliée en étendant son habitat hors des marais et dans les terres agricoles, la diminution de la biodiversité végétale et animale causée par les herbicides et les pesticides utilisés massivement dans la culture industrielle du maïs et du soya, a réduit la quantité d'insectes disponibles, insectes qui, rappelons-le, sont indispensables à l'alimentation des petits. C'était « Le commandeur, le carouge à épaulettes », un texte de Philippe Blin, paru dans Québec Oiseau, volume 32, numéro 3, printemps 2021.
Ce qui nous définit. Émilie Penneau défriche ce qui se passe côté culture sur la Côte-Nord. Un texte paru dans l'édition automne-hiver 2022 dans le magazine Nouveau Projet. jadis prisé pour ses pêches abondantes puis pour la pureté de ses eaux, la région se retrouve aujourd'hui dans un rôle d'incubateur culturel qui lui sied à merveille. D'autant qu'il y a ici quelque chose d'intangible et de pourtant essentiel au processus créatif, l'espace. Avec ses 236 665 km², la Côte-Nord est en pleine effervescence culturelle et artistique. De plus en plus de centres d'art côtoient les usines, les alumineries, les centres d'aventure sur la Nitassinan, les plages où l'on ramasse les clames. Ainsi, Tête à la Baleine accueille depuis peu Glaise Bleu, un organisme cousin de Panache Art Actuel, centre d'art autogéré et nomade, pionnier du genre dans la région, l'atelier de la 8e île, basé à Longue-Pointe de Mingan, offre quant à lui un lieu de recherche, de création, de production, de diffusion et de médiation culturelle en art multidisciplinaire. Les trois entités sont nées d'une volonté de stimuler l'intérêt des nord-côtiers-côtières pour l'art, mais aussi de protéger et de partager la culture locale. Ce qu'on souhaitait créer avec Glaise Bleu, c'est une occasion de valoriser l'immense potentiel de création de la Basse-Côte-Nord avec des activités culturelles qui rassemblent, qui sont ancrées dans les communautés et dans le territoire, indique Frédérique Lévesque, directrice et cofondatrice du centre. La sélection des dossiers se fait autour de thématiques liées au territoire. En 2021, Catherine Arsenault, qui a étudié les eaux du Saint-Laurent dans le cadre de projets de résidence avec Panache, a vu son animation « Débâcle » se tailler une place de choix dans plusieurs festivals, de Saguenay à Copenhague, en passant par Saint-Jean de Terre-Neuve et Orlando. Certaines créateurs-créatrices ont pour leur part proposé des œuvres collaboratives qui ont permis de développer des liens entre les communautés. C'est le cas de l'artiste et commissaire Joanne Roussy, qui pilote les Utopies nordiques depuis quelques années. Accueillant des artistes de différents horizons, tels Alexandre Saint-Onge et Joséphine Bacon, ce projet multidisciplinaire donne la parole aux femmes, aux Innus et aux enfants de travailleurs-travailleuses d'usines venus s'établir dans la région. Aujourd'hui, c'est l'art qui attire professionnels et créateurs-créatrices émergents-émergentes, habitants-habitantes et nouvelles entreprises et qui assure une certaine rétention de la jeunesse. Les nord-côtiers-côtières en sont conscientes et c'est pourquoi la population, les municipalités et certaines entreprises mettent la main à la pâte pour soutenir les innovations culturelles. De plus en plus, les autres secteurs réalisent l'importance de la culture pour leur propre sphère d'activité. Plus on l'enseigne tôt, plus le sentiment d'appartenance devient grand et plus l'attractivité du territoire se construit. La culture, c'est exponentiel, soutient Marie-Hélène Baudry, agente de développement à Culture Côte-Nord. Depuis 5 ans, se trame un projet d'enseignement du cinéma à Baie-Comeau, l'une des villes les plus industrialisées de la province. Dans une petite polyvalente d'à peine 500 élèves, les jeunes vont et viennent. Depuis les balbutiements du programme, les cohortes se multiplient et s'exportent, allant jusqu'à Paris pour réaliser des kinos. On y produit des courts-métrages, on y échange entre passionnés, on écrit, tourne, monte, visionne. Du 17 au 21 mai 2023, auront lieu les premières rencontres provinciales de cinéma entièrement consacrées aux moins de 18 ans. Pendant quelques jours, la ville accueillera des jeunes de partout dans la province. C'était ce qui nous définit. Émilie Penneau défriche ce qui se passe côté culture sur la Côte-Nord. Un texte paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet.
« a franchi les cheveux longs, les chevaux de l'île de sable, un texte de Pierre Bonneau, paru dans Nature sauvage, printemps 2022, numéro 55. La crinière échevelée par la bourrasque, les naseaux emplis d'air salin, ils sont là, par petits groupes cernés de tous côtés par un océan sans fin. Regard sur les chevaux de l'île de sable, prisonniers insulaires libres comme le vent du large. Mince langue sablonneuse sise dans l'Atlantique Nord, à 275 km d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, l'île de sable ne pourrait être mieux nommée. Longue d'environ 49 km, au gré des flots qui la remodèlent sans cesse, elle fait à peine 1300 mètres en son point le plus large. Longtemps inhabitée, dépourvue de relief appréciable, cet îlot a été la hantise des anciens navigateurs. Bien des navires ont péri sans laisser de traces sur les plages de cette île qu'on surnommait alors le cimetière de l'Atlantique. Un arrivage équestre. Néanmoins, au XVIIe et XVIIIe siècle, de braves colons tentent, en vain, de s'établir sur cet îlot rebelle. En désespoir de cause, des chevaux et du bétail sont laissés sur place par Andrew Le Mercier, un marchand bostonnais, dans le but de nourrir de futurs naufragés, mais cette ménagerie, abandonnée à elle-même, s'étiole. Thomas Hancock, un Bostonnais lui aussi, aurait de même conduit une soixantaine de chevaux sur l'île de sable, probablement saisi au peuple acadien lors de la déportation, dans l'espoir qu'il se multiplie à peu de frais. Sa mort, quelques années plus tard, fait avorter l'affaire. Mais les chevaux, ceux de Le Mercier ou de Hancock, le doute plane toujours, font des petits. Ce sont leurs descendants qui peuplent aujourd'hui cette bande de terre et non les rejetons de chevaux rescapés de naufrages, tels qu'un folklore persistant l'affirme. Retour à l'état sauvage. Peu de temps après leur introduction sur l'île, les chevaux adoptent graduellement un comportement féral. La domesticité séculaire s'effaçant, le naturel revient au galop. L'équidé, si longtemps sous le joug humain, redevient sauvage et le processus de sélection naturelle se remet en marche. Après de multiples générations, sa robe s'est allongée, le crin de sa crinière et de sa queue est hirsute, le tout procurant une meilleure protection contre les aspérités du climat. Sa morphologie s'est elle aussi lentement transformée, si bien que son pâturon, la partie de la jambe située entre l'articulation appelée boulet et le dessus du sabot, est désormais plus court, ce qui facilite les déplacements dans le sable. La hiérarchie sociale, que détermine en grande partie la sélection sexuelle, s'est également rétablie. Des groupes se constituent, chacun dominé par un étalon d'au moins 4 ans qui, après avoir affronté d'autres mâles adultes, conquiert le privilège de former un harem composé d'une à 3 juments dont il écarte les compétiteurs. C'est le système de polygynie par défense des femelles. Des mâles en âge de s'accoupler sont parfois tolérés par l'étalon, mais ils ne peuvent s'unir à une femelle que lorsque le maître a le dos tourné. La jeune progéniture, issue du clan, complète la bande qui compte jusqu'à une 15aine de membres. Des groupements ne contenant que des mâles s'observent aussi, ainsi que des couples seuls et des individus solitaires. La partie occidentale de l'île de sable étant plus riche en ressources que les sections centrales et orientales, les groupes de l'Ouest sont généralement plus robustes et productifs. Des étangs permanents d'eau douce dans la partie ouest, alimentés par la pluie, permettent aux chevaux de boire à satiété. Par contre, du côté est, les mares s'assèchent plus vite et les chevaux doivent creuser le sol afin d'atteindre la nappe phréatique. Malgré tout, les chevaux se déplacent peu et ne s'aventurent que rarement à plus de 4 km dans l'une ou l'autre direction du centre de leur territoire estival. Résultat, le brassage génétique ne se fait que modérément entre ces trois zones. Une vie simple en été, dure en hiver. Le cheval de l'île de Sable est de petite taille et trapu, à tel point que certains lui attribuent le nom de poney. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, il a la configuration et les traits propres au cheval. Sa petitesse est reliée au climat rigoureux et à la quantité et qualité de nourriture disponible. Couverte au tiers d'herbes de différentes espèces et dénuée d'arbres, l'île ne lui offre qu'un menu limité. Son alimentation de base est l'amophile à ligule courte, une herbe qui pousse en abondance sur les dunes de l'îlot. D'autres plantes complètent son ordinaire, notamment la gesse maritime et l'onchénie robuste. Si, durant la belle saison, ces herbes contribuent à engraisser l'équidé, en hiver, une fois desséchées, elles perdent leur valeur nutritive. Ainsi, un été défavorable à la végétation annonce un hivernage pénible pour les individus vulnérables. Un autre défi associé à la nourriture attend également ces ongulés. Chaque bouchée étant accompagnée d'un peu de sable, leur dentition s'use prématurément. À l'âge adulte, la croissance naturelle des dents ne suffit plus à compenser la perte due à l'usure par le sable. Les chevaux qui n'arrivent pas à mastiquer convenablement l'amophile, une plante rugueuse et raide, meurent souvent de malnutrition en fin d'hiver ou tôt au printemps. S'ils n'ont pas à craindre les prédateurs, d'ailleurs totalement absents de l'île, le sable omniprésent est l'adversaire incontournable. Des chevaux indésirables? Malgré son apparence désertique, l'île de Sable abrite une faune et une flore diversifiées et compte même une demi-douzaine d'espèces d'insectes endémiques, tels le ver gris de l'île de Sable, un papillon de nuit et l'alicte de l'île de Sable, une petite abeille. Quelques 300 espèces d'oiseaux y transitent, dont 16 sont connues pour y nicher, comme la sterne de Dougal, un oiseau en voie de disparition pour lequel l'île offre encore des secteurs propices à la nidification. Enfin, au-delà de 190 espèces de plantes y ont été répertoriées, dont une vingtaine sont relativement rares hors de l'île. Pourvue d'un écosystème riche mais sensible, l'île de Sable profite depuis une dizaine d'années du statut de réserve de parc national. Or, pour les chevaux, cette disposition prend des airs de cheval de Troie. En effet, certains biologistes maintiennent que la préservation de ce biotope ilien passe par le rapatriement de l'équidé qu'ils jugent néfaste à ce milieu précaire. D'après eux, Parc Canada, qui a le mandat de protéger l'île, doit en conséquence la débarrasser de cet herbivore. Bien des îles dans le monde, argue-t-il, sont aux prises avec des animaux domestiques, chats, ânes, porcs, devenus féraux, et qui ravagent les lieux. Les preuves scientifiques démontrant que les chevaux menacent l'équilibre sauvage de l'île ne font toutefois pas consensus et n'ont actuellement que peu de poids face à la pression du public à les protéger. L'image romanesque de ce charismatique animal, crinière au vent, esselé sur son lointain îlot, pèse certes lourd dans la balance. En dépit de ses supporters, le cheval ne voit pourtant pas son avenir assuré. Comme il est soumis aux aléas du changement climatique et d'une consanguinité inévitable, il s'en faudrait de peu que ses effectifs, aujourd'hui stables, ne chutent radicalement. Comme l'explique Jocelyn Poisson, professeur d'écologie évolutive à l'Université de Calgary, et qui étudie cette population équine, que deux ou trois rudes hivers se suivent, ou qu'une épidémie se déclare, et voilà la population du cheval en dangereux déclin. Un tel épisode pourrait alors précipiter la décision de le ramener sur le continent afin de préserver sa lignée. Pour le moment, tout est calme sur l'île de Sable. Pas question de déportation pour ses notoires occupants. Broutez en paix, nobles chevaux. C'était « Affranchis les chevelons, les chevaux de l'île de Sable », un texte de Pierre Bonneau, paru dans Nature sauvage, printemps 2022, numéro 55.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Robert Chartier à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.